France Info.
Très pluvieux samedi dans le sud, avec des pluies soutenues sur la Côte d'Azur et de la neige sur tous les massifs. Hein, les pluies se seront calées sur la façade est et vers les Pyrénées. Alors de la neige à basse altitude avec les températures en baisse. Et puis à partir de dimanche, le soleil reviendra assez largement.
Merci.
Pour la semaine prochaine d'ailleurs.
Merci Christine Peña et merci d'écouter France Info. Il est 5h. C'est le premier mort parmi les militaires français depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Il a été tué dans une attaque de drone dans le Kurdistan irakien. Dans quelles circonstances? On y revient dans un instant. Il est le grand absent sur la scène politique américaine depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran. Mais où est passé le vice-président J.D. Vance? On est dans le journal avec le correspondant de France Info à Washington. Également dans l'actualité, l'annonce de ces 12 cas de listériose dont deux mortels. Ils sont liés à des charcuteries d'une entreprise de la Drôme. Et le football, un match nul, un partout pour Lyon en Espagne face au Celta Vigo. En huitième de finale aller de la Ligue Europa, c'est plus compliqué pour Lille, battu 1-0 sur sa pelouse par Aston Villa. Un militaire français est mort dans une attaque de drone en Irak, annonce faite dans la nuit par Emmanuel Macron. 5 autres militaires sont blessés. Bonjour Théo Metton-Régimbault.
Bonjour à tous.
Ce soldat a été tué dans la région d'Erbil, c'est dans le Kurdistan irakien.
Oui, il a péri lors d'une attaque de drone, selon l'état-major des armées françaises. Des frappes qui ont fait également au moins 5 blessés parmi les forces armées, tous pris en charge par les secours. Le sous-officier tué était issu du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, selon le message posté dans la nuit par Emmanuel Macron. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques, écrit aussi le président de la République. Il y a quelques minutes, un groupe armé pro-iranien a annoncé cibler, je cite, les intérêts français en Irak et dans la région après le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle. Ils seront sous le feu de nos attaques, écrit le groupe, sans pour autant revendiquer directement ces frappes. Une attaque qui survient quelques heures après déjà une frappe sur une base italienne située à Erbil. Les forces françaises engagées en Irak depuis plusieurs années participent à la lutte contre Daesh dans le pays et à des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès des partenaires irakiens.
Théo Metton-Régimbault, et je le rappelle, donc attaque qui n'a pas été revendiquée. Elle a fait un mort parmi les militaires français au Kurdistan irakien. Pas de revendication, mais un groupe armé pro-iranien vient donc d'annoncer qu'il cible les intérêts français en Irak et dans la région. Et au 14e jour de la guerre en Iran, les frappes américaines et israéliennes se poursuivent sur l'Iran, mais aussi au Liban. Des tirs iraniens ont à nouveau visé ces dernières heures des pays du Golfe. Le détroit d'Ormuz, au large de l'Iran, reste largement bloqué à la navigation, ce qui fait monter les prix du pétrole. Du coup, malgré les sanctions liées à la guerre en Ukraine, les États-Unis autorisent de manière temporaire la vente du pétrole russe stocké sur des navires. Autorisation à ce stade jusqu'au 11 avril. Et cette nuit, le prix du pétrole s'est stabilisé sur les marchés asiatiques. Le baril de référence se maintient autour de 100 $, au plus haut depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Il est 5h03, le vice-président américain J.D. Vance est comme Donald Trump en campagne à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre prochain. Il fait étape aujourd'hui en Caroline du Nord pour un meeting très attendu car il se fait très discret depuis le début de la guerre contre l'Iran. Il faut dire que cet ancien soldat n'a jamais caché son opposition aux interventions militaires à l'étranger, d'où un certain embarras visiblement du vice-président par rapport à ce conflit qui est en cours au Moyen-Orient. À Washington, pour France Info, Franck Mathevon.
En campagne avant la présidentielle, J.D. Vance était très clair. On va arrêter d'envoyer nos jeunes dans des terres lointaines. Nous ne sommes pas les policiers du monde. Voilà ce qu'il dit en août 2024. Vance a servi chez les Marines, il a vécu l'Irak et l'isolationnisme est un pilier de son idéologie. Le vice-président ne croit pas aux interventions militaires à l'étranger. Il n'a pas caché sa circonspection ces dernières semaines avant la guerre contre l'Iran. Donald Trump lui-même le reconnaît. Il était peut-être moins enthousiaste à l'idée d'y aller, mais assez enthousiaste quand même. J.D. Vance se fait donc discret en ce moment. Peu d'activité sur les réseaux, très peu de présence médiatique, à part cette interview donnée à Fox News 2 jours après le déclenchement de la guerre. Il n'y a aucune chance que Donald Trump laisse ce pays s'enliser dans un conflit de plusieurs années sans issue claire en vue et sans objectif clair. L'objectif étant, selon Vance, l'élimination de la menace nucléaire iranienne pour cette génération, mais aussi pour les suivantes. Le vice-président traverse ainsi 2 épreuves, aller contre sa nature en défendant la guerre et laisser beaucoup d'espace à son principal rival pour 2028, le secrétaire d'État Marco Rubio.
Franck Mathevon à Washington pour France Info. Il est 5h05. 12 cas de listériose ont été identifiés entre septembre 2025 et janvier 2026, liés à des charcuteries d'une entreprise de la Drôme, annonce des ministères de l'Agriculture et de la Santé, qui précise que 2 patients de plus de 75 ans sont décédés. Un arrêté préfectoral de suspension d'activité a été pris. Les premiers patients sont tombés malades il y a près de 6 mois et le bilan n'est peut-être que provisoire. Florence Gautchot.
Oui, parce que la période d'incubation de la listériose va d'1 à 2 mois. Une personne qui aurait consommé une charcuterie contaminée début février ne serait pas forcément encore tombée malade. À ce stade, 12 cas ont été enregistrés, 7 hommes et 5 femmes, une trentenaire enceinte, les autres ont tous plus de 65 ans et la plupart, dont les 2 personnes décédées, présentent des comorbidités, cancer, diabète, insuffisance rénale chronique ou grand âge. Sur les 12 malades, 9 vivent en Auvergne-Rhône-Alpes. Les premiers cas datent d'octobre, mais difficile alors de faire un lien entre les patients qui permettraient de trouver l'origine de la contamination. C'est après les 7 cas déclarés en janvier dernier que les autorités sanitaires notent une consommation de pâtes et croûtes chez les malades. Elles ont ainsi pu remonter jusqu'à Dromardèche Tradition à Bourg-de-Péage où la même souche de bactéries a été découverte. L'entreprise a été fermée jeudi dernier par arrêté préfectoral et l'ensemble de ses produits rappelés.
Florence Gautchot, d'ici Drôme Ardèche pour France Info. C'est le dernier jour de la campagne officielle pour les municipales avant le premier tour dimanche. À Paris, Rachida Dati et Emmanuel Grégoire ont tenu leur dernier meeting hier soir. La première appelant à l'union contre une gauche radicale. Le second appelant à résister contre l'alliance de la droite et de l'extrême droite. Le livret A financera à hauteur de 60% le programme nucléaire EPR2 en France, annonce de l'Élysée à l'occasion d'une visite d'Emmanuel Macron sur le chantier de la future centrale de Penly en Seine-Maritime. Cette décision a été prise à l'occasion d'un conseil de politique nucléaire au cours duquel le président de la République a plaidé en faveur de l'atome, indispensable selon lui à la compétitivité et la souveraineté de la France. Il est 5h07, le football avec les 8e de finale aller de la Ligue Europa. Ça s'annonce compliqué pour Lille, battu 1-0 sur sa pelouse par Aston Villa hier soir. Un but encaissé à l'heure de jeu qui va obliger le LOSC à renverser la tendance jeudi prochain en Angleterre. À Lille, on veut y croire, surtout que c'était le même cas de figure au tour précédent dans les barrages. Soirée de football vécue à Lille pour France Info par Jean-Pierre Blumeau.
Battu 1-0 par l'Étoile Rouge de Belgrade lors du barrage aller, le LOSC avait réussi à renverser la tendance au retour, emmené par son attaquant Olivier Giroud. Hier soir, l'ancien avant-centre des Bleus n'a pas été loin d'ouvrir le score, au même titre que son coéquipier Galamouko, ce qui laisse de l'espoir à l'entraîneur lillois Bruno Genesio.
Je pense qu'on ne méritait pas forcément de gagner le match. Encore que si on concrétise une des 2 occasions en première mi-temps, on ne sait pas comment le match pouvait tourner, mais au moins terminer avec un score de parité aurait été encore plus avantageux pour nous avant d'aller à Villa Park.
Rien n'est encore joué, confirme Lucas Digne, défenseur d'Aston Villa, de l'équipe de France et ancien Lillois.
On n'est qu'à la moitié, on savait qu'ils avaient un peu plus de difficultés à domicile qu'à l'extérieur et maintenant il faut faire le travail au retour.
Mais pour refaire le coup de Belgrade, le LOSC devra être beaucoup plus réaliste, reconnaît le milieu de terrain Nabil Bentaleb.
On l'a vu dans le tour précédent face à Belgrade, on a perdu à domicile avec un match catastrophique, on est parti se qualifier là-bas avec un tout autre visage. Bon, aujourd'hui c'est pas un match catastrophique pour nous, je pense qu'on peut mieux faire et on va essayer de mieux faire à Villa Park.
Malheureusement, les Lillois seront peut-être diminués, leur capitaine et plaque tournante du milieu de terrain, Benjamin André, est notamment sorti à la mi-temps, touché à la hanche.
Et Jean-Pierre Blimeau à Lille pour France Info et de son côté Lyon limite la casse. Les Lyonnais ramènent un nul 1-1 face aux Espagnols du Celta Vigo dans le championnat. Marseille-Auxerre ce soir, c'est le match d'ouverture de la 26e journée. Coup d'envoi à 20h45, l'OM 3e du classement qui reçoit des Auxerrois 16e. À 5h09, la tendance météo de ce vendredi avec Christine Peña. Allez, encore un peu de patience, 2 jours de pluie avant de retrouver le soleil.
Exactement, nous avons aujourd'hui aujourd'hui et demain, une belle perturbation très pluvieuse et venteuse qui traverse le pays. Alors, des pluies soutenues aujourd'hui vers le centre Val-de-Loire. Demain, ça sera vers la région PACA avec pas mal de neige en montagne. Et dimanche, on devrait retrouver le soleil. En tout cas, il sera ce dimanche beaucoup plus calme et plus largement ensoleillé.
Eh bien, tant mieux. Merci Christine Peña. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, juste avant 5h30 pour une carte météo complète.
Municipal 2026.
France Info en campagne, en direct de Bourges.
Tracts, marchés, réunions publiques, comment se passent les dernières heures de campagne pour les candidats?
Comment convaincre dans la dernière ligne droite?
Les coulisses du scrutin, quelle organisation?
Toute la journée, invités et reportages.
Municipal 2026. France Info en campagne, en direct de Bourges.
En partenariat avec le Berry Républicain.
Un militaire français est mort dans une attaque en Irak. Annonce faite cette nuit par Emmanuel Macron, une frappe qui visait les troupes françaises stationnées dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien. Quelles options pour la France? Dans un instant, on est avec le colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Témis.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Il est 5h11, un militaire français est mort dans une attaque en Irak, annonce faite cette nuit par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Une frappe qui visait les troupes françaises stationnées dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien. 5 autres soldats ont été blessés. Quelles options aujourd'hui pour la France? L'analyse du colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Témis, invité de France Info.
Il y a l'option, on ne bouge pas, on trouve des explications et on trouve des solutions à cette question. La deuxième option, c'est éventuellement une réaction française un peu plus vive vis-à-vis de l'Iran. Mais là, on change de modèle, on change d'organisation, on change de gamme. Et là, il n'est pas impensable que si les Français décident de mettre en place des mesures de rétorsion, ce sera un autre sujet. À l'heure où on parle, c'est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions. Donc j'imagine que l'état-major français, en tout cas le Conseil de défense, peut éventuellement se réunir pour savoir quelles sont les mesures qu'on peut prendre.
Qu'est-ce qui pourrait inciter la France à prendre des mesures de rétorsion?
Un exemple, c'est le renseignement. Si le renseignement pouvait confirmer, un exemple très concrètement, que Erbil est une cible prioritaire des Iraniens, ce qui me semble pas être le cas à l'heure où on parle. Aujourd'hui, je pense que les Iraniens ont toute une série de cibles, globalement tous azimuts, les bateaux qui sont dans le golfe Persique, les pays du Moyen-Orient qui sont juste face à eux. Donc encore une fois, le Kurdistan est relativement loin, mais c'est vrai que le Kurdistan est frontalier de l'Iran au nord, au nord-ouest. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une problématique à ce niveau-là. Donc tant que les Kurdes ont vraiment communiqué sur le sujet, donc c'est devenu presque une menace, même si on sait à l'heure où on parle que les Kurdes n'ont pas du tout l'intention de rentrer en Iran.
Père de Jong, colonel, est-ce que s'il s'avère que l'Iran a délibérément visé les soldats et cette ville d'Erbil, ce qu'ils ont déjà fait, puisque vous l'avez déjà rappelé, là ça pourrait inciter l'état-major français à prendre des décisions, des mesures de rétorsion, et quelle forme cela pourrait prendre, puisque vous l'avez dit vous-même, si c'était le cas, on changerait de dimension, c'est-à-dire.
Alors, il y a deux niveaux. D'abord, les mesures défensives. J'imagine que des mesures défensives vont être accentuées, accélérées. On peut mettre en place une dispersion. On n'est pas obligé d'être concentré au même endroit. Donc, il y a des mesures, je dirais, de prévention, des mesures défensives à prendre. Déjà, j'imagine sans aucun problème que l'armée française, en tout cas les unités françaises présentes sur place, prennent ces mesures. Le deuxième point, après, c'est une décision du chef de l'État. Vous savez que l'engagement du feu, le chef de l'État français aujourd'hui est le chef des armées. Donc, c'est lui qui va décider. Donc, il y aura des options qui vont être présentées. Donc, dans les options qui vont être présentées, il y a l'option maximaliste qui est en fait de répliquer potentiellement sur le territoire iranien un tir avec des drones sur une position française. Ça, c'est le truc numéro 1. Numéro 2, la deuxième possibilité, c'est de menacer l'Iran en lui disant que s'il recommence, on est prêt à éventuellement intervenir. Et la troisième partie, c'est de dire bah, écoutez, on considère très concrètement que c'est un accident et on n'en tire aucune conclusion. Moi, je pense qu'on est plutôt sur les deux premières options, l'option réaction et l'option menace. Le deuxième point maintenant, avec quoi peut-on répliquer? Aujourd'hui, les Français ont un positionnement militaire relativement important. Je vous rappelle qu'on a des forces à Djibouti, on a des forces aujourd'hui en Jordanie, je parle d'avions, et on a également une armada, ou entre guillemets, on a un porte-avions qui est positionné, en Méditerranée. Donc aujourd'hui, on a tous les moyens possibles et imaginables pour éventuellement répliquer, sur une force iranienne quelle qu'elle soit.
Le colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Témis, il répondait sur France Info à Julien Langlais. Il est 5h14. La guerre contre l'Iran a aussi des répercussions au Liban. Pour éviter les frappes israéliennes et les tensions, certaines villes limitent l'arrivée des déplacés. Plus de 800 000 personnes ont été forcées de se déplacer en moins de 15 jours. Elles appartiennent pour la plupart à la communauté chiite qui soutient le Hezbollah, allié de l'Iran, ce qui peut créer des tensions avec les autres communautés opposées à cette guerre. L'envoyé spécial de France Info au Liban, Étienne Monin.
Zaleh est construite dans le relief de la plaine de la Bekaa. C'est la quatrième ville du Liban, mais elle n'accueille que 7000 déplacés pour une population de près de 200 000 personnes. Le maire est chrétien, il s'appelle Salim Ghazali. Il considère que la ville a fait le plein de déplacés.
Ce qu'on veut, c'est éviter toute tension entre ces gens-là. Et je pense que le plus d'ordre il y a dans la ville, le moins de tension il y aura et tout le monde sera respecté et aura une vie le plus normale possible en attendant que ça se termine.
Ici, il n'y a aucun déplacé dans la rue, contrairement à la guerre de 2024. Ils sont logés dans des écoles et, pour les plus riches, dans des hôtels ou des appartements, avec un contrôle strict, dit ce propriétaire qui veut rester anonyme.
Cette fois-ci, la municipalité nous a demandé de faire plus attention et de prendre l'identité de chaque personne.
Quand la guerre a éclaté, la ville était prête à cadrer l'arrivée des déplacés. Dès la première nuit, les 70 agents de la police municipale dirigés par Elie Hazard ont été mobilisés.
À 3h du matin, les policiers étaient sur le terrain, aux entrées de la ville. On contrôlait les arrivées et tout le secteur. Tous les citoyens libanais peuvent venir à Zaleh, mais on doit savoir où ils vont et qui sont les membres de la famille.
Le maire répond à une angoisse qui traverse le pays. Israël traque et cible les membres actifs du Hezbollah ou ses soutiens iraniens. Il y a eu des frappes du genre sur Beyrouth ces derniers jours. Salim Ghazali, en quelque sorte, ne veut pas que les déplacés importent la guerre dans sa ville.
C'est une très grande crainte et c'est une des sources de tension entre les habitants. Quand il y a des réfugiés qui viennent dans un appartement, dans un immeuble, etc., la première réaction, c'est est-ce que ces gens-là vont devenir une cible potentielle ?
Dans cette ville, les chrétiens sont très largement majoritaires. Ils rejettent cette nouvelle guerre déclenchée par le Hezbollah.
Étienne Monin, l'envoyé spécial de France Info au Liban, avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Il est 5h17, J-2, on vote pour le premier tour des municipales dimanche. Depuis une semaine, tous les jours sur France Info, on fait le point sur les enjeux de ce scrutin pour les principaux partis avec le service politique. Dernier épisode aujourd'hui avec le Rassemblement National. Bonjour Pierrick Bonneau.
Bonjour.
Marine Le Pen répète que ces municipales sont le premier pas vers l'alternance. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour elle ?
Alors, quand la patronne des députés du RN dit alternance, elle pense bien sûr à une victoire de son parti à la prochaine présidentielle. Or, plus il sera implanté localement, le RN l'est peu aujourd'hui, plus ses idées vont infuser dans la société. D'où l'importance de ces municipales, et pas seulement en cas de victoire. Un proche de Marine Le Pen résume ainsi l'équation. C'est gagnant-gagnant, gagnant évidemment si on remporte des grandes villes, Toulon, Carcassonne, Menton ou encore Lens, mais gagnant aussi si on obtient de nouveaux conseillers municipaux un peu partout, sans pour autant décrocher les mairies. Ça nous permettra, dit-il, de peser sur les décisions.
Et puis dans la tête des dirigeants du RN, il y a aussi les sénatoriales, c'est en septembre prochain.
C'est dans 6 mois, la moitié des sénateurs sera renouvelée, un scrutin universel indirect. Nous ne serons pas rappelés aux urnes, ce sont les grands électeurs qui voteront. Ils sont un peu plus de 80 000 et l'immense majorité de ces grands électeurs, 9 sur 10, sont des conseillers municipaux. En clair, ceux que vous allez élire dimanche éliront ensuite des sénateurs. Un conseiller du RN espère voir se former un squelette d'élus locaux pour permettre à son parti de créer son propre groupe au Sénat en septembre. Il y a aujourd'hui seulement 3 sénateurs RN. Il en faut 10 pour créer un groupe au Palais du Luxembourg. Et avec un groupe, le parti gagnerait en visibilité et pèserait davantage sur les décisions et l'ordre du jour du Sénat.
Et puis évidemment, Pierrick, ces municipales, ça donnera un indice sur les chances du parti de remporter la prochaine présidentielle.
Car c'est normalement la dernière élection au scrutin direct avant 2027. Des conclusions nationales seront tirées au soir du second tour. Paris, sans trop prendre de risques, un haut gradé du parti. Et même si ce scrutin local n'a pas grand-chose à voir avec la présidentielle, la sociologie des électeurs du RN, elle sera observée à la loupe. Si les retraités, notamment, votent pour nos candidats, ce sera une victoire, fait remarquer un élu du premier cercle. Ces retraités qui se déplacent traditionnellement plus aux urnes que les autres classes d'âge, mais dont les voix ont longtemps manqué au RN pour dépasser son fameux plafond de verre.
Pierrick Bonneau du service politique de France Info. Et pour cette dernière journée de campagne pour les municipales, c'est une nouvelle journée spéciale sur France Info. France Info qui est à Bourges avec des rendez-vous très réguliers tout au long de cette matinale. Dans les prochaines minutes, le monde d'Élodie, Élodie Suigaud et son invité ce matin, Éric Cantona. Dans deux minutes, on sera d'abord au Luxembourg où on fait le plein moins cher par ces temps d'envolée du prix des carburants. D'abord, le tour de l'info.
France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 5h20, c'est avec Diane Ferchit. Bonjour Diane.
Bonjour à tous.
Le premier titre de ce vendredi, un soldat français tué en Irak et 5 autres blessés.
Annonce d'Emmanuel Macron, cette nuit, le militaire appartenait au 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. Ils ont été touchés par une attaque de drones des soldats français qui étaient à Erbil pour former les Kurdes contre le terrorisme. Le président américain Donald Trump affirme, lui, que la guerre contre l'Iran évolue très rapidement alors qu'un avion de ravitaillement au carburant, avion américain s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak. On ignore combien de personnes étaient à bord. Selon Washington, les opérations de secours sont en cours. Ce crash n'est pas dû à des tirs hostiles ou amis, mais Téhéran assure que l'appareil a été touché par des tirs de missiles venant de groupes pro-iraniens. De son côté, Israël met en garde contre une nouvelle vague d'attaques pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Israël est en train d'écraser l'Iran et le Hezbollah. Dernier jour de campagne pour les municipales en France. Le premier tour, c'est dimanche à Paris. Les candidats de la droite et de la gauche se sont affrontés via meeting interposé. Rachida Dati appelle à l'union contre une gauche radicale. Emmanuel Grégoire lui appelle à résister contre l'alliance de la droite et de l'extrême droite. Les Jeux paralympiques avec le slalom géant homme aujourd'hui. Hier chez les femmes, c'est Aurélie Richard qui a décroché le bronze. La France compte ce matin 10 médailles.
France Info.
Le prix du baril de pétrole a de nouveau dépassé le seuil des 100 dollars hier. La guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz au large de l'Iran continuent de faire grimper les prix. En France, malgré la promesse hier des distributeurs de plafonner ou de baisser les prix au litre, faire le plein coûte toujours aussi cher. Alors pour échapper aux prix élevés, beaucoup de Français choisissent de passer la frontière pour faire le plein au Luxembourg, où les taxes sont moins élevées. Et il y a toujours autant de monde sur l'aire de Berchem et sa station-service qui fait le plus gros chiffre d'affaires d'Europe. Station prise d'assaut sur place pour France Info, Thomas Vinclair.
Devant les 24 pompes, les automobilistes défilent et certains ont le sourire.
Vive le Luxembourg.
Benjamin va payer son litre d'essence 1,65€, c'est 25 centimes en moins par rapport à sa station d'essence près de Nancy.
On en a profité pour faire un petit détour pour faire le plein.
Il devait se rendre dans des thermes près de Metz, mais il a décidé de rallonger sa course sur quelques dizaines de kilomètres.
On en profite quand même, si on peut économiser sur tout ce trajet, c'est parfait quoi.
Solène, elle, en est à son deuxième passage de la semaine sur l'aire de repos. Peau luxembourgeoise.
J'étais même pas à sec, donc je me suis dit que c'était le moment d'aller chercher l'essence avant que ce soit encore plus cher. J'espère que ça va pas continuer d'augmenter. Hein. Si ça augmente plus, ça va être compliqué.
Car même au Luxembourg, les prix peuvent donner le tournis.
Ah ouais, 1,82 ici.
Smile n'en revient pas. Au Luxembourg aussi, le prix du gazole flambe. Son copilote, Lucas, est dépité.
Il faudra dire au président du Luxembourg qu'il baisse un peu les prix. Hein.
Sur les 5 derniers jours, le litre de diesel a pris 34 centimes pour un plein de 50 litres. Cela coûte désormais 13 euros plus cher, mais ça reste toujours plus avantageux par rapport aux autres stations françaises.
Dans la tête, on se dit peut-être qu'on a fait un petit bénéfice.
On crache pas dessus.
Yasmina est infirmière à domicile.
Moi, je fais entre 80 et 120 km par jour, minimum. Ouais. Ça veut dire que je suis en voiture tout le temps et que le prix de l'essence qui augmente alors que nous, on n'est pas augmenté sur nos déplacements. Ça coûte un bras et ça impute sur notre budget, en fait.
Elle a fait le calcul avec un plein et demi par semaine. Elle économisera 30 euros.
À l'année, ça va me faire des économies monstres, en fait. 30 euros, je ne sais pas si les gens se rendent compte que c'est vraiment compliqué. Donc, on essaye, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas des superwomen. Hein. À un moment donné, on est limité.
Au Luxembourg, c'est le gouvernement qui fixe les prix avec un plafond à ne pas dépasser. Hier, le ministère de l'Économie a annoncé mettre en circulation une petite partie des réserves stratégiques de pétrole du pays. Conséquence, le prix du litre de diesel baisse ce matin de 4 centimes et repasse sous la barre des 1,80€.
Thomas Vinclair dans cette station-service du Luxembourg pour France Info. Il est 5h24, tout de suite, le monde d'Élodie. Élodie Suigaud est son invitée.
Bonjour Eric Cantona.
Bonjour Élodie. In your lovely cage, a man of your age, at the end of misery, a quick look over the
Vous êtes une figure à part dans l'histoire du sport français, ancien international et légende de Manchester United. Vous avez marqué le football par votre talent, votre créativité et votre personnalité profondément singulière, pour ne pas dire différente ou unique. Et contre toute attente, alors que toutes les portes étaient grandes ouvertes, vous avez choisi de quitter le football à seulement 30 ans pour explorer d'autres formes d'expression. On pense au cinéma, à la photographie, à la peinture, au théâtre et maintenant à la musique. Et vous sortez aujourd'hui un album intitulé Perfect Imperfection. C'est un projet qui est très personnel, presque introspectif, dans lequel on découvre une écriture très imagée, presque poétique, où les métaphores semblent parfois dire davantage que les mots eux-mêmes. Dans cet album, vous nous livrez une réflexion très profonde finalement sur l'imperfection humaine, sur nos failles, sur la manière dont elles peuvent devenir une force. Est-ce que cette idée vous accompagne depuis longtemps, peut-être même depuis votre carrière de footballeur ?
Bon, après, ça se nourrit jour après jour, hein, selon si on a envie d'observer le monde, d'écouter ce qui se passe, d'écouter les gens, d'observer la nature, de se poser des questions sur soi. C'est important aussi, je crois, de se poser des questions sur soi. Puis il y a le temps qui passe, puis il y a le rapport à tellement de choses, quoi. Aux souvenirs, à ce qu'on a envie de laisser, ce qu'on a envie de faire. Puisque de toute façon, il y a, à un moment donné, ça finira tout ça, quoi. Donc, moi, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Et j'ai cette chance d'avoir cette motivation, quoi. Et d'avoir ces passions-là. De pouvoir m'exprimer, bien sûr. Mais de toujours avoir envie. Et je pense que ça vient des parents, quoi, ça. Ils nous ont toujours donné ce truc d'observer. Et parce que ça te donne tellement de liberté de pouvoir trouver du sens à tout. Ça permet d'aller très loin, quoi. Les pensées se suivent et s'enchaînent, quoi.
Quand on regarde votre parcours aujourd'hui, que ce soit le football, l'art, le cinéma, la musique, si votre vie était une œuvre composée de plusieurs chapitres, quel serait, selon vous, le fil qui relie tout ça ?
Un sentiment vital de liberté, un sentiment vital de devoir s'exprimer par toute forme d'art, à partager. Ou pas.
Dans Avoir le choix, vous abordez la question de la liberté justement personnelle. Cette idée que choisir sa route implique aussi d'en assumer les conséquences. C'est très autobiographique. Là, effectivement, on est en 97, au moment où, à seulement 30 ans, vous décidez de raccrocher les crampons. Avoir le choix, c'est quoi ?
Avoir le choix, c'est en même temps un luxe. Et en même temps, si j'ai le choix et que je choisis quelque chose, je dois l'assumer. Après, ça dépend des choix qu'on fait. Moi, je suis souvent et de plus en plus dans l'instinct, quoi. Dans l'instant et dans l'instinct.
Dans On se love, on ressent une douceur particulière. Là, on découvre l'homme amoureux. Donc, ce n'est pas une facette que vous nous montrez habituellement. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de très intime. Et ce jeu de mots entre love et se lover, comme deux êtres qui se blottissent pour se protéger, il y a effectivement toujours ce côté protecteur, donne l'impression d'une chanson très intime, inévitablement. Est-ce que vous avez aussi ce besoin aujourd'hui, avec l'âge, entre guillemets, qui avance, d'explorer cette partie, cette confiance dans l'intimité, finalement ?
Je n'ai pas envie de décrire, j'ai envie d'écrire sur plein de choses, y compris l'amour. Mais l'amour, je crois que c'est peut-être le sujet qui a été le plus traité dans la chanson, quoi. L'amour impossible, la séparation, tout autour de l'amour, quoi. Là, on est presque plus dans l'acte de, on est plus dans faire l'amour, quoi, dans cette chanson, quoi.
C'est là où il y a des métaphores. À quel point vous allez loin dans l'album ? Jamais vous vous êtes autant livré.
Non, peut-être pas. Après, c'est en poésie, quoi. C'est aussi un peu aussi des métaphores, quoi.
Pour terminer, est-ce que avec cet album vous avez trouvé votre voix dans tous les sens du terme, avec toutes les écritures possibles ? Cette voix, nous, on la découvre complètement différemment, alors que vous aviez déjà chanté auparavant. Mais cet album, c'est tellement vous. C'est du pur Eric Cantona.
Cet album, c'est quand j'écris un texte, j'écris. C'est un besoin de s'exprimer.
Presque vital.
Vital, je dirais même. Ce que j'ai fait, en tous les cas, c'est j'ai essayé le plus possible de faire un truc qui est moi, quoi, qui fait partie de moi. Moi, je ne suis pas un chanteur à voix. L'important, c'est de trouver son identité, de trouver qui on est, même si on cherchera toute notre vie. Mais d'être le plus possible libre. Donc moi, cet album, il peut pas être plus moi. Dans les mots, dans la musique, dans son univers, dans ce qu'il dégage, et dans l'atmosphère, dans l'énergie. C'est ça, je crois, ma plus grande fierté.
Merci beaucoup, Eric Cantona, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Votre album Perfect Imperfection vient de sortir. À travers ces chansons, on découvre l'homme que vous êtes devenu, tout en ayant peut-être toujours été cet homme-là depuis très longtemps. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le monde d'Élodie avec Eric Cantona, Élodie Suigo, à retrouver sur franceinfo.fr. Tout de suite, la météo et le journal.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
La météo avec Christine Peña sur France Info. La baisse des températures, ça continue aujourd'hui, oui. Christine, mais pas partout.
Pas partout, effectivement. Alors, ça fait quand même 2 mois qu'il fait relativement doux, en tout cas, que nous n'avons pas de température vraiment froide. Il faut remonter au 11 janvier pour trouver des gelées matinales, par exemple. Hier, il y en a eu, mais c'est très local, en Champagne. Aujourd'hui, on en trouve un peu plus entre le Jura, la Haute-Vallée du Rhône ou encore l'Auvergne, le nord de l'Occitanie, ce qui met fin à cette série. Mais aujourd'hui, au nord, les températures sont relativement douces sous les nuages ce matin, autour de 10-12 degrés, 10 à Paris en ce moment. Et ça ne va pas évoluer du tout cet après-midi, donc ça baisse, mais en journée. 10 degrés à Paris, pas plus. On aura un petit 7 du côté de Cherbourg et de Brest. Et il fera encore doux dans le sud, en Auvergne, jusqu'à 17 degrés à Clermont-Ferrand par exemple, 14 dans le Jura, et de 17 à 18 entre la Méditerranée et le sud-ouest.
Christine Peña, merci d'écouter France Info, il est 5h30.
France Info, Jean-Christophe Martin.
C'est l'information de la nuit. Un militaire français est mort dans une attaque de drone en Irak. Annonce faite par Emmanuel Macron il y a quelques heures. 5 autres militaires sont blessés. C'était dans la région d'Erbil, dans le Kurdistan irakien. Les soldats français participaient à des actions de formation à la lutte contre le terrorisme avec des partenaires irakiens. La victime est l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. Premier soldat français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Attaque qui n'a pas été revendiqué, mais un groupe armé pro-iranien vient d'annoncer qu'il cible les intérêts français en Irak et dans la région. Et la guerre contre l'Iran évolue bien, c'est ce qu'affirme Donald Trump, après que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a promis de venger les attaques américaines et israéliennes. Mais tout se passe très bien, selon le président américain.
La situation avec l'Iran évolue très rapidement. Ça se passe très bien. Notre armée est incomparable. Il n'y a jamais rien eu de pareil. Personne n'a jamais vu ça. Et nous faisons ce qu'il faut faire, ce qui aurait dû être fait pendant une période de 47 ans. Beaucoup d'autres auraient pu le faire. Ils ont choisi de ne pas le faire. Mais ils sont vraiment une nation de terreur et de haine et ils payent le prix fort en ce moment.
Donald Trump est au 14e jour de cette guerre en Iran. Les frappes américaines et israéliennes se poursuivent sur l'Iran, mais aussi au Liban. Et des tirs iraniens ont à nouveau visé ces dernières heures des pays du Golfe, où le détroit d'Ormuz reste largement bloqué à la circulation, avec pour conséquence la hausse des prix du pétrole. Cette nuit, il s'est stabilisé sur les marchés asiatiques, mais le baril de référence se maintient autour de 100$, au plus haut depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Emmanuel Macron reçoit d'ailleurs aujourd'hui Volodymyr Zelensky à Paris pour démontrer que la guerre au Moyen-Orient ne détournera pas l'attention de l'Ukraine et que la Russie se trompe si elle pense profiter de ce contexte géopolitique. Il est 5h32, plus de 2 mois après la tragédie de Crans-Montana en Suisse. L'enquête se concentre toujours sur le couple de gérants français du bar soupçonnés d'homicide et d'incendie par négligence. 9 personnes en tout sont poursuivies et selon un fournisseur de matériaux qui a sollicité la justice helvétique, Jacques Moretti avait refusé d'installer un dispositif anti-feu dans son bar, le Constellation. Ces accusations, elles tiennent dans un mail envoyé aux magistrates moins d'une semaine après l'incendie. Mail qu'Aurélien Tirard a pu consulter pour France Info.
Ce mail, il commence ainsi. En 2015, monsieur et madame Moretti ont commandé leur mobilier intérieur chez moi. Le couple poursuit le fournisseur, n'a pas retenu l'option avec un capitonnage, avec une mousse anti-feu, et cela pour des raisons budgétaires, ce que contestent les Moretti. 10 ans plus tard, la mousse achetée par le gérant provoque un embrasement généralisé du bar en 92 secondes. Dans son mail, le fournisseur dénonce, je cite, une forme de négligence et une attitude inconsidérée. Selon cet homme, les Moretti estimaient ne pas avoir à respecter strictement la réglementation incendie, le couple convaincu, selon le professionnel, d'obtenir malgré tout les autorisations nécessaires. Il affirme encore avoir été menacé par Jacques Moretti qui, je cite, lui aurait promis de lui casser les jambes pour avoir mal parlé à sa femme. 2 mois après l'incendie, ce fournisseur s'étonne dans un second mail envoyé à la justice de n'avoir toujours pas été entendu comme témoin.
Aurélien Tirard du service police-justice de France Info. Et le livret A financera à hauteur de 60% le programme nucléaire EPR2 en France, annonce de l'Élysée à l'occasion d'une visite d'Emmanuel Macron hier sur le chantier de la future centrale de Penly en Seine-Maritime. Vous écoutez France Info, il est 5h34.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Et on revient sur cette première déclaration du nouveau guide suprême iranien hier, Mojtaba Khamenei, qui menace de représailles les pays du Golfe qui abritent des bases américaines. Il promet de garder fermé le détroit d'Ormuz et jure de mener la vengeance jusqu'au bout. Des mots mais pas d'images. La déclaration a été en fait lue par une présentatrice de la télévision d'État. Sébastien Ragnon est chercheur, spécialiste de l'Iran et décrypte cette absence physique du nouveau guide suprême.
Il est en sursis puisqu'il est ciblé par les autorités israéliennes et américaines, donc sa vie est en danger. Et puis bon, c'est clair qu'il a dû être clairement blessé dans la mesure où toute sa famille même a été tuée, donc c'est peut-être des blessures assez graves. Mais je dirais que aussi ça fait partie, cette forme de réserve, de dissimulation, d'être caché, un petit peu de la tradition chiite qui existe en Iran, c'est-à-dire que pour préserver sa vie, il est tout à fait normal de se montrer un petit peu dissimulé et de pas se présenter physiquement. Et puis, il y a aussi cette culture un petit peu du martyr, de la personne qui souffre, d'être comme ceux qui souffrent en ce moment en Iran, c'est-à-dire que s'il est blessé, il y a beaucoup de blessés en Iran, il y a beaucoup de morts. Donc, il y a aussi une manière peut-être de se présenter, c'est quelqu'un qui est blessé, qui fait partie, qui est sur le front et qui est malade aussi.
À qui s'adresse, on va parler du fond maintenant, ce message, parce que le pouvoir sait bien aussi avec cette guerre qu'une partie de la population est contre lui.
Oui, alors moi déjà ce qui me frappe, c'est la clarté du message par rapport à ce que nous avions l'habitude d'entendre de son père, de l'époque où son père était guide, où on avait des discours très alambiqués, dans l'invective, très flous, un peu gnostiques, qui s'adressaient à des initiés, avec beaucoup de références religieuses et révolutionnaires. Là, nous avons affaire à un message très clair où il s'adresse en 7 points à des acteurs différents, alors la population, les pays arabes, les États-Unis. L'axe de résistance. Donc chaque acteur finalement dans la région a son mot et finalement il distribue sur chaque acteur le sentiment qu'il a. Mais donc moi ce qui me frappe déjà, c'est que c'est un discours sur la partie américaine. C'est que l'Iran précise bien qu'il a été forcé de frapper les pays du Golfe de la région parce que ces pays de la région disposent d'une base américaine. Et il souligne le fait que si ces pays n'avaient pas de base américaine, ils n'auraient pas été frappés. Donc là, il met en contradiction un petit peu les États-Unis dans la région, où ils se présentent dans les pays du Golfe comme les protecteurs du pays du Golfe, alors qu'en fait, c'est l'action d'attaquer l'Iran qui les a mis en difficulté, qui les a mis en danger. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce qui m'a aussi marqué, c'est le peu de messages, de diatribes anti-Israël, finalement. C'était un message beaucoup plus tourné vers les États-Unis, sa population, l'axe de résistance, mais finalement assez peu envers l'Israël.
Très rapidement, Sébastien Rognaud, est-ce qu'il faut comprendre à travers ce message du guide suprême iranien, d'abord que le pouvoir est toujours bel et bien en place en Iran et pas prêt d'abandonner la partie, que cette guerre va être peut-être très certainement une guerre d'usure?
Pour l'Iran, ça a tout intérêt à être une guerre d'usure, parce que là, maintenant, l'objectif militaire des États-Unis et d'Israël est relativement atteint. Je crois que même à Washington et à Tel Aviv, ils le disent. La question est de savoir maintenant l'impact économique pour l'ensemble de la planète. Parce que c'est là où finalement il y a une espèce de piège qui s'est retourné sur Donald Trump, où il y a eu beaucoup de triomphalisme, disons, depuis 10 jours. Et puis là, petit à petit, cette prise de conscience que finalement, nous sommes tous des colosses au pied d'argile et nous dépendons tous du détroit d'Ormuz révèle un petit peu aux États-Unis la contradiction, enfin surtout à Donald Trump, la contradiction de son attaque contre l'Iran.
Sébastien Regnault, chercheur spécialiste de l'Iran. Il répondait sur France Info à Julien Langlais. Il est 5h38. Alors que penser de cette première déclaration du guide suprême iranien? Le regard de Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France et ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Qu'en penser et qu'est-ce qu'on en pense spécialement du côté américain?
On sent bien que le président Trump est un peu pressé de terminer la guerre compte tenu des conséquences économiques. Il a ses élections en novembre. Et en même temps, on sent bien qu'il voit bien que le régime iranien veut le pousser à la poursuivre. Et il a dit quelque chose d'intéressant, qui est un peu le contraire de ce qu'il disait avant. Il est plus important de détruire le potentiel nucléaire iranien que même si c'est pour voir les prix du pétrole augmenter. Donc il donne un signal disant qu'il a compris la tactique du régime iranien qui est de faire durer et qu'il est prêt aussi à affronter cela. Mais malgré tout, il a certainement envie de pouvoir déclarer victoire le plus vite possible. Et c'est cela que la déclaration du nouveau chef du régime iranien, Mojtaba Khamenei, traite en disant « Non, tu ne pourras pas. Parce que nous, on continue et notamment, on va continuer à actionner le levier de la fermeture du détroit d'Hormuz. »
Comment vont réagir, selon vous, les États-Unis avec justement ce chantage au pétrole, avec le détroit d'Hormuz, le baril de Brent qui clôture au-dessus de 100 dollars aujourd'hui? C'est la première fois depuis 2022. Économiquement aussi, l'opération, c'est un gouffre pour les États-Unis. La première semaine de guerre a coûté plus de 11 milliards de dollars. Ça, c'est ce que dit le New York Times.
Alors, la réponse devait être surtout militaire. Vous vous souvenez que dès les premières heures, Donald Trump a dit « Il faut détruire le potentiel nucléaire, il faut détruire le potentiel balistique, c'est-à-dire les missiles, voire les lanceurs de drones. » Et il a aussi tout de suite dit « Il faut détruire la marine iranienne. » Aujourd'hui, le problème militaire, c'est comment détruire le potentiel militaire iranien qui permet justement au régime iranien de continuer à bloquer de fait la circulation dans le détroit d'Hormuz, sachant qu'après, une solution, on en a parlé au sommet G7, dès que la situation militaire le permettrait, consisterait à accompagner pour reprendre ce trafic qui concerne quand même 20% du pétrole dans le monde, du commerce du pétrole dans le monde, avec un accompagnement militaire. Mais on ne peut pas le faire pour l'instant parce qu'il y a toujours cette menace, et on parle même de mines des Iraniens qui mineraient ce détroit.
Philippe Etienne, c'est la première armée du monde, ce sont les États-Unis. Difficile d'imaginer une seule seconde que ce scénario-là n'ait pas été anticipé par les États-Unis.
Alors, moi je n'ai pas de réponse à cette question. On peut la prolonger d'ailleurs.
Moi non plus.
pourquoi avoir apparemment été incapable d'anticiper les attaques iraniennes sur les pays du Golfe? Alors c'est vrai que la plupart des missiles, des drones lancés contre Bahreïn, contre le Qatar, contre l'Arabie Saoudite, contre les Émirats, contre le Koweït sont interceptés, mais malgré tout il y a des dégâts, et ces dégâts font du mal à ces pays, notamment à leur réputation, mais aussi à leurs intérêts économiques, au tourisme, au transport aérien. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui, semble-t-il, n'ont pas été anticipées, mais le point central, c'est effectivement, c'est une course contre le temps. Comment faire en sorte pour Israël et les États-Unis de détruire suffisamment les réseaux de communication, les bases de lanceurs de drones et de missiles, et bien sûr le potentiel nucléaire iranien, pour que les Iraniens, le régime iranien, ne puisse plus continuer ses attaques. Et ça, apparemment, le régime iranien s'y était préparé et dispose encore de la capacité de lancer, fût-ce un petit nombre d'unités chaque jour, pour entretenir cette guerre.
Pareil pour le détroit d'Hormuz, c'est une situation qui
ça va avec.
Devait être anticipée aussi.
Ça va avec, puisque ce sont des moyens militaires finalement assez réduits. L'attaque tous les jours contre deux ou trois bateaux, et y compris des bateaux chargeant du pétrole, qui permettent au régime iranien de continuer à cette situation dans le détroit.
Est-ce que les États-Unis peuvent poursuivre ce conflit pendant encore longtemps?
Le danger pour le président Trump, avec ses élections qui arrivent en novembre, c'est une situation qui durerait, où le prix du baril monterait ou s'établirait durablement au-dessus de 100, voire bien au-delà de 120 euros. Vous avez dit, c'est inédit. C'est vrai que le marché pétrolier a beaucoup changé depuis le choc pétrolier des années 70, malgré tout. Et même si les États-Unis sont exportateurs nets d'énergie aujourd'hui, il y a un effet qui est plus fort en Europe, plus fort en Asie, mais qui est quand même fort et notable dans le prêt à la pompe et dans le coût de la vie aux États-Unis. Or, c'est déjà un point délicat pour le président Trump, parce que il n'arrive pas à convaincre l'opinion américaine, les sondages en attestent, qu'il leur a rendu du pouvoir d'achat.
Philippe Étienne, ancien ambassadeur de France et ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et c'est une interview exclusive France Info. L'armateur CMA-CGM s'est exprimé hier pour la première fois à la radio sur la situation de ses navires en pleine guerre au Moyen-Orient. Et d'abord l'info en une minute.
France Info, 5h-6h.
Le tour de l'info à 6h moins le quart, c'est avec Diane Ferchit et le premier titre. Diane, Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français au Moyen-Orient.
Au Kurdistan irakien, un membre du 7e bataillon de chasseurs alpins de Var, 5 autres militaires français sont blessés en cause d'une attaque de drone. Un groupe armé pro-iranien indique ce matin cibler les intérêts français en Irak et dans la région. Du côté des États-Unis, c'est un avion ravitailleur qui s'est écrasé également en Irak. Le commandement militaire américain affirme en revanche qu'il n'a pas été touché par un tir, ni hostile ni ami, alors que l'Iran assure que ce sont des mouvements pro-iraniens qui ont visé l'appareil et cette mise en garde d'Israël ce matin contre une nouvelle vague d'attaques de missiles iraniens. Israël qui dit avoir frappé un membre du Hezbollah à Beyrouth. Et alors que la guerre au Moyen-Orient fait flamber les prix du pétrole, les États-Unis autorisent de façon temporaire la vente d'une partie du pétrole russe stocké sur des navires. Le cours du pétrole qui semble se stabiliser ce matin, le baril de Brent se maintient à 100$. Le livret A va permettre de financer le nucléaire français, annonce de l'Élysée. Le placement préféré des Français financera à hauteur de 60% le programme nucléaire EPR2, programme qui vise à construire 6 nouveaux réacteurs de forte puissance.
France Info.
C'est une interview exclusive France Info. L'armateur CMA-CGM s'est exprimé hier et c'était la première fois à la radio sur la situation de ses navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. L'entreprise est leader en Europe. 14 de ses bateaux sont actuellement bloqués. D'après les informations de France Info, les pertes du groupe s'élèvent déjà à plusieurs millions d'euros. Mais qu'en est-il des 300 marins et membres d'équipage embarqués sur ces cargos? La vigilance est maximale et CMA-CGM reste en lien permanent avec l'État, comme l'assure Christine Cabot, qui est la vice-présidente en charge des opérations et des actifs du groupe.
Nous, on est en contact étroit, évidemment, avec les autorités militaires françaises dans la région. On parle beaucoup avec elles pour recueillir leurs recommandations, leurs conseils, quels sont les endroits, les zones les plus sécurisées où nous pouvons faire attendre nos navires et les mettre au mouillage. Nous avons des consignes de sécurité qui ont été mise en place avec les équipages à bord de nos navires, les alertes, à quel endroit il faut qu'ils aillent quand ils attendent une alerte à laquelle ils sont connectés comme tous les autres habitants de la zone. Nous nous assurons qu'ils peuvent être en contact régulier avec leur famille. Hier, il y a une maman qui n'arrivait pas à joindre son fils à bord d'un de nos navires et qui nous a appelé et on a fait en sorte qu'il puisse se parler. Et il y a un numéro d'urgence qui est à la disposition des familles 24 heures sur 24 quand ils souhaitent avoir des nouvelles, savoir ce qui se passe.
Sans évidemment dévoiler, parce qu'il y a des enjeux stratégiques et de sécurité pour les navires, mais sans dévoiler où exactement les navires mouillent, est-ce que ce sont dans des ports qui sont à des dizaines, centaines de kilomètres purement du détroit? Et est-ce que, deuxième question, l'État français vous aide à sécuriser vos navires?
En fait, on est en contact étroit avec les autorités militaires françaises, à la fois sur la localisation géographique de nos navires, ou quelles sont les zones qui sont les plus sécurisées, à quelle distance, effectivement, de l'entrée du détroit d'Ormuz, mais aussi dans une distance raisonnable à proximité des ports. Parce que CMA, nous sommes opérateurs et propriétaires d'un terminal à conteneurs à Abu Dhabi. Et ça nous donne une garantie aussi pour nos équipages de savoir qu'en cas de besoin, pour ravitaillement, en supply, en nourriture, en eau douce, ils peuvent venir à quai ou s'il y a des évacuations d'ordre médical, la proximité de ce port est aussi importante. Donc on fait au mieux avec les informations dont on dispose.
Est-ce que de la même manière que certains navires pétroliers ont été touchés, est-ce que vous avez identifié depuis le début du conflit des menaces claires et concrètes qui pesaient sur vos navires?
Nous, vous savez, dans le Golfe, on a des porte-conteneurs. On a bien compris qu'aujourd'hui, les navires qui étaient le plus visités, c'était les navires en lien avec l'énergie, en lien avec le pétrole. Ce qui nous embête aujourd'hui, nous, ce sont les débris de drones, de missiles qui peuvent tomber. Et c'est ceux pour lesquels nous avons mis en place des consignes de sécurité avec nos marins. On ne se sent pas particulièrement visé, mais c'est une zone de guerre, c'est une zone de conflit, et on voit bien que dans tous les pays du Golfe et dans cette zone-là, le problème des débris qui peuvent endommager des navires, et c'est ce qu'on a vu récemment, est un vrai problème.
Est-ce qu'on peut dire que l'activité de CMA-CGM dans le détroit d'Ormuz est totalement à l'arrêt, paralysée, ou alors est-ce que vous avez trouvé des solutions pour contourner le détroit ?
Ce qu'on a mis en place, ce sont des solutions de corridors terrestres, soit par les entrées par Oman et le sud des Émirats Arabes Unis, au sud du détroit, soit aussi par l'entrée par la mer Rouge et par l'Arabie Saoudite. En termes de capacité, évidemment, ce n'est pas la même chose qu'en temps normal avec des navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Ça peut assurer quand même le transit des biens de première nécessité et notamment de la nourriture, de l'eau et de tout ce qui sera essentiel pour les habitants de cette zone. Une chose importante, c'est que comme les moyens de transport continuent de fonctionner, nos navires sont bloqués, mais on peut assurer la relève de nos marins et la rotation de nos équipages. Et ça, c'est très important parce que je pense que c'est un facteur important pour le moral des navigants qui sont à bord des navires.
C'était justement le sens de ma prochaine question. Et comment vous avez réussi à assurer cette relève? Combien d'entre eux ont été relevés et concrètement, comment vous vous y prenez?
Les avions fonctionnent, hein, donc les moyens de transport fonctionne, donc on peut assurer les relèves. On a, dans un premier temps, évacué les cadets parce qu'on a beaucoup d'apprentis aussi à bord de nos navires. Donc ces jeunes-là, on a eu à cœur de les évacuer en priorité, ce qui a été fait assez rapidement. Et là, maintenant, on est en mesure d'assurer les relèves régulières.
Et ça se fait aussi sur la base du volontariat, si j'ai bien compris, mais à peu près combien de marins sont rentrés en France ?
Aujourd'hui, on va dire depuis 13 jours, on a fait entrer, il y a une dizaine de relèves qui a été assurée, mais ce phénomène-là de la relève est assuré normalement. Il n'y a pas de difficulté à assurer les relèves des équipages qui sont dans le Golfe.
Et pas non plus de difficulté pour, mais je reprends votre le langage technique, pour réarmer les bateaux, pour faire revenir des marins sur vos navires ?
Vous savez, notre pool de marins navigants dans le monde, c'est 11 000. Donc non, il n'y a pas de difficulté pour assurer les relèves.
Est-ce que pour ceux qui sont rentrés en France, pour les marins qui sont rentrés en France, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui est mis en place par CMA-CGM ? Et est-ce que certains en ont déjà fait la demande ?
Nous avons une aide psychologique online qui fonctionne tout le temps. Il n'y a pas de demande particulière de la part de nos marins. Ils savent qu'elle est disponible à tout moment avec leur famille. Ils ont un contact à tout moment, H24, avec les équipes de CMA-CGM, une cellule de crise qui est activée 7 jours sur 7. Donc voilà comment on fait tout ce qu'on peut pour maintenir le moral.
Christine Cabot, la vice-présidente en charge des opérations et des actifs de l'armateur CMA-CGM. Elle répondait sur France Info à Yvan Planteil. Il est 5h51, déjà 1000 personnes qui travaillent sur place, mais 10 000 d'ici quelques années. C'est le chantier du siècle, selon Emmanuel Macron, le plus grand projet industriel d'Europe, selon EDF. Le chantier des deux futurs réacteurs EPR2 à Penly, en Seine-Maritime. Le chef de l'État, le Premier ministre, plusieurs ministres étaient hier après-midi sur le site de la centrale nucléaire pour visiter le chantier avant de présider le Conseil de politique nucléaire. Et Théophile Pedrola a suivi cette visite présidentielle pour France Info.
Le chantier autour des deux réacteurs déjà existants est immense. 1000 personnes travaillent, une véritable fourmilière avec ses rues, ses ronds-points, ses portes d'accès très sécurisées et ses camions. Un va-et-vient incessant de craie venue de la falaise. Frédéric Aignon est le directeur du projet EPR2 à Penly.
On fait ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Et rapidement, on a commencé à faire les terrassements que vous voyez derrière nous. Et pour faire des EPR2, on a besoin de faire de la place. Donc on enlève de la craie, de la falaise. On aura enlevé 3 millions de mètres cubes quand on aura fini à la fin de l'année. On va les mettre en mer et on fait une extension en mer de 20 hectares.
Ce chantier, c'est Emmanuel Macron qui l'a voulu en 2022. Il est venu pour la première fois depuis son élection sur le site d'une centrale nucléaire, voir les conséquences de ses décisions.
D'abord, moi je sais collectivement d'où on vient. Il y a 15 ans, on était 48 heures après Fukushima. Le monde entier se disait c'est fini pour le nucléaire. Il y a 11 ans, la France avait une loi qui disait qu'il fallait passer de 75% de production d'électricité à 50%, on a changé tout ça.
Pas de regret, bien sûr. Ces deux réacteurs doivent fournir à partir de 2038 l'équivalent de la consommation en électricité de toute la Normandie. Les détails ont été discutés hier lors du Conseil de politique nucléaire.
On va prendre aujourd'hui des décisions importantes qui vous permettront dès l'année prochaine de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, d'accélérer le travail.
Cette décision doit arriver en fin d'année, mais personne n'exprime de doute. L'idée est plutôt de lancer encore de nouveaux chantiers. Le chef de l'État veut assurer de son
sans soutien.
On a l'année dernière surproduit l'électricité dans notre pays. Il n'y a pas un équivalent en Europe. Parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à gagner la bataille du climat, de la compétitivité et de la souveraineté sans le nucléaire. Vous pouvez être fiers collectivement. Vous êtes en train de participer à Penly au chantier du siècle.
Emmanuel Macron, qui a aussi discuté quelques instants avec Sébastien Jumel, élu communiste, président de la communauté d'agglomération de Dieppe.
Trois exigences simples. D'abord, on va construire à l'échelle de l'agglo 3000 logements dans les 4 ans qui viennent, sans accompagnement financier de l'État. Il nous faut un accompagnement financier de l'État plus fort. Deuxième sujet que j'ai évoqué, la santé majeure. 12 000 salariés qui arrivent, c'est des besoins humains et financiers pour l'hôpital. 10% de salariés de l'EPR qui fréquentent notre centre intercommunal. Le troisième sujet, d'anticiper les besoins de sécurité posés par l'EPR à Penly. Il fallait être là cet après-midi, même quand on n'est pas du même bord, quand le président de la République vient, il faut être capable de défendre son territoire.
Des sujets dont il pourra, assure-t-il, discuter avec le cabinet du Premier ministre qui a promis de le recevoir.
Théophile Pedrola d'ici Normandie pour France Info. Il est 5h54, l'heure du réveil de l'écho avec Emmanuel Cugny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec le Crédit Coopératif. Banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Toute l'actualité économique en trois titres en raison de la guerre au Moyen-Orient. Total Energy réduit sa production mondiale de pétrole.
Oui, la multinationale française suspend l'extraction de brut et de gaz dans plusieurs États du Golfe. Alors essentiellement au Qatar, en Irak et puis l'offshore, l'extraction en mer aux Émirats Arabes Unis, soit l'équivalent de 15% de sa production totale au monde. Comme le pétrole ne peut plus quitter la région par le détroit d'Hormuz, Total Energy est confrontée aux mêmes difficultés que certains pays producteurs contraints de ralentir leur production pour ne pas engorger les capacités de stockage.
Et on y revient en détail dans le journal de 6h sur France Info dans 5 minutes. Dans ce contexte énergétique très tendu, le groupe américain Tesla va livrer de l'électricité au Royaume-Uni.
Et oui, le constructeur américain de voitures électriques de luxe vient d'en recevoir l'autorisation en obtenant une licence pour livrer en électricité donc les consommateurs domestiques et non domestiques, les entreprises britanniques. Le groupe américain piloté par Elon Musk détient outre-Manche une filiale, Tesla Motors Limited, qui avait obtenu en 2020 déjà une licence pour produire de l'électricité au Royaume-Uni, notamment grâce à des panneaux solaires, mais sans pouvoir la vendre directement aux consommateurs, ce qui est donc désormais possible.
Et le groupe Brandt doit être fixé sur son sort aujourd'hui.
Oui, le tribunal doit en effet rendre sa décision sur l'avenir des marques, usines et autres actifs de l'ancien fleuron de l'électroménager Made in France. Brandt doit rembourser ses dettes après une liquidation judiciaire prononcée en décembre. Alors, sauf s'il décidait de s'accorder un délai supplémentaire, le tribunal des activités économiques de Nanterre tranchera entre les 36 offres déposées pour la reprise des actifs de l'ancien groupe Centenaire, qui regroupe notamment les marques Vedette, Sauter ou encore De Dietrich.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Le Haut Conseil pour le Climat réclame au gouvernement français une feuille de route précise sur la sortie des énergies fossiles. Cela concerne donc le charbon, le gaz et le pétrole. Un avis, évidemment, qui tombe à un moment très délicat en pleine guerre au Moyen-Orient.
Emmanuel Cugny, on se retrouve dans une demi-heure à 6h23. Le Brief Éco est tout de suite à 5h57. La playlist du jour de France Info avec Diane Ferchit. Diane, il est question de karma.
Et même de bon karma en ce vendredi 13. Karma, c'est le titre du nouvel album du duo toulousain Big Flo et Oli. Il sort aujourd'hui, 4 ans que leurs fans l'attendaient.
Combien de fois on m'a dit qu'il viendrait. Laisse faire le karma. Le karma. Laisse faire le karma.
Avec Karma, les deux frères veulent revenir à l'essentiel de ce qu'ils aiment dans la musique. Big Flo et Oli disent se sentir plus légitimes. Ils s'inscrivent dans les pas d'Orel San ou d'MC Solar avec des textes qui leur ressemblent. Il faut dire qu'ils ont évidemment grandi et mûri depuis leur premier tube. Souvenez-vous, c'était il y a 10 ans.
Je suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta, j'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsters kiffent ça. Je suis pas un gangsta.
Big Flo et Oli qui commencent leur tournée dans un peu plus d'un mois, le 17 avril, avec 5 dates chez eux au Zénith de Toulouse. Ils seront ensuite entre autres à l'Accor Arena à Paris en octobre et à Lyon au mois de novembre. et les billets, Jean-Christophe, sont déjà en vente.
Si j'avais lu l'histoire à l'envers, j'aurais su que derrière mes problèmes se cachait un happy end.
La playlist de France Info en happy end avec Diane Ferchit, la météo tout de suite avant le journal à 6h.
France Info Météo avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Et on regarde le temps qu'il fait avec Christine Peña et c'est une journée très pluvieuse, en tout cas sur l'ouest, Christine.
Oui, l'ouest et le nord, effectivement, c'est un peu le happy end du soleil. Alors, il résiste quand même dans le sud et notamment le sud-est pour aujourd'hui, mais il ne va pas résister longtemps. À partir de demain, les pluies auront glissé. Elles seront très soutenues d'ailleurs vers la Côte d'Azur, la région PACA, avec de la neige sur tous les massifs. Ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, nous avons vraiment ce ciel très chargé, pluvieux, venteux sur une bonne moitié nord-ouest du pays. On va tirer une ligne entre Bordeaux et Nancy. Au nord de cette ligne, c'est là où ça se passe aujourd'hui, avec des pluies soutenues qui le deviennent sur le centre Val-de-Loire notamment. Ce matin, il fait froid d'ailleurs dans le sud où le ciel est dégagé. On a des petites gelées d'ailleurs au nord de l'Occitanie, vers les Préalpes. Et puis, sous les nuages, il fait 12 degrés. Il fait relativement doux. Ça, c'est pour Rennes, par exemple. Cet après-midi, on ira de 7 à Brest, 8 à Lille, 10 à Paris. On a la même température en ce moment. Ça ne va pas bouger du tout. 16 à Strasbourg, 17 à Clermont-Ferrand, jusqu'à 18 à Toulouse et Biarritz.
Christine Peña, il est presque 6h et pour 3 nouvelles heures d'infos, c'est Benjamin Recouvreur qui nous accompagne sur France Info. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jean-Christophe et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin avec toute l'équipe de France Info. Christine Peña donc pour la météo.
Bonjour.
Sarah Ders pour l'info dans un instant. Bonjour.
Bonjour.